Votre rendez-vous bien-être vous est présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.
Et allez, zoup, la patch, alala, les lundis en deuxième partie d'édition, c'est pif, paf, pouf, Delphine et Nequet en studio. Coucou Delphine.
Coucou.
Nature rock pat, pourfendeuse de la belette de Winchester, auteur du livre Comment soigner son panarier en 10 leçons, les champignons, tout ça, enfin, best-seller, succès.
Mycose.
Ah oui, vie et mort d'une mycose en 3 temps et 4 mouvements.
C'est ça.
C'est pas un peu long comme titre, je me demandais. Non, c'est sur la couverture. Oui, ça passe. Ouais.
Ça passe.
La vie secrète des arbres n'a qu'à bien se tenir. Delphine Deneke, donc naturopathe au magasin bio, un espace géré par Ingrid et Valérie, situé avenue de Toulouse. Et aujourd'hui, rubrique chronique historique avec Hildegarde de Bingen.
Oui, exactement. Sainte-Hildegarde.
Sainte-Hildegarde,
qu'on retrouve d'ailleurs dans des produits en magasin de Sainte-Hildegarde, en fait, des associations de plantes pour faire des tisanes ou autres. Il y a marqué Sainte-Hildegarde. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Sainte-Hildegarde...
Ah bah, elle n'est pas toute jeune.
Oui, elle a à peu près un peu plus de 800 ans, quand même. Donc, c'est... Oui, puisqu'elle était quand même... Et c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est que cette nana du Moyen-Âge, quand même, où ses écrits sont quand même parvenus... Enfin, voilà, sont toujours d'actualité. C'est extraordinaire de traverser le temps... On va dire que c'est une des premières phytothérapeutes importantes de l'histoire. Enfin, de l'histoire. Non. Enfin, il y en a d'autres, mais en tout cas, elle fait partie des phytothérapeutes importantes de l'histoire.
T'aurais pu faire ta chronique en allemand aujourd'hui, je sais que tu maîtrises la langue et puis.
Hein, c'est vrai, c'est pas faux, mais puisque effectivement, il faut le préciser, Sainte-Hildegarde de Bingen était donc. Allemande.
C'est possible.
D'origine germanique. Donc très vite, elle a été au couvent et compagnie. Bon, on va pas vous faire le truc, non. Mais en tout cas, c'était une religieuse bénédictine, donc qui était une grande mystique, hein, apparemment, recevait des informations du ciel. Et, elle était médecin, guérisseuse, et donc, je le disais, on va dire un peu, elle était naturopathe quand même, on peut le dire. Donc, elle a écrit plusieurs ouvrages. Que je n'ai pas lu, hein. Je vous le dis tout de suite, je ne les ai pas lus. Mais quand même, c'est intéressant puisque c'était quand même quelqu'un qui avait énormément de bon sens et un sens de l'observation aigu. Et donc, en fait, elle en déduisait ses observations et elle a fait un gros travail de holistique, c'est-à-dire que vraiment, elle tenait compte de l'individu dans son ensemble, comme on le fait nous en naturopathie, c'est-à-dire, voilà...
Le global.
Exactement. Mmh. La typologie de l'individu, et puis, elle parlait aussi des humeurs, hein, ces humeurs dont on parlait, être de mauvaise humeur, ça veut dire quoi? Les humeurs, en fait, c'était tous les liquides corporels, donc il y avait cette observation de l'encrassement du corps, voilà, il y avait besoin de nettoyer à des moments pour régénérer ses organes, mais aussi son psychisme et son état émotionnel. Mais c'est quelqu'un qui a été très souvent malade tout de même. Donc voilà, elle a pu observer chez elle aussi ce qui pouvait la soulager. Donc voilà, une grande médecine de bon sens. Et elle a quand même, dans ses ouvrages, décrit les vertus de plus de 500 plantes, animaux ou minéraux.
Elle entretenait un petit jardin d'ailleurs, hein, non, de plantes.
Oui, bah, de toute façon, dans toutes ces abbayes et tout, ils avaient ça.
C'est ce qui se passait à la Chartreuse ici à Villefranche, je crois, me savoir.
Et puis, on lui reconnaît ce gros travail de référencement, d'observation. Et elle avait quand même des plantes ou des aliments chouchous. Quand même, voilà. Dont l'épeautre en particulier. L'épeautre, il existe même encore ce qu'on appelle la cure d'épeautre selon Sainte-Hildegarde, donc une cure de 21 jours qui consiste en fait à manger. En fait, c'est une sorte de monodiète à l'épeautre, puisqu'elle considérait que c'était vraiment déjà la meilleure de toutes les céréales, loin devant le petit épeautre. Alors, je ne sais pas si à son époque on connaissait quand même déjà le petit épeautre, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est vraiment de l'épeautre, épeautre non hybridé dont parle, en disant que c'était la meilleure céréale parce que déjà elle contenait tous les acides aminés essentiels, mais aussi des protéines, des minéraux en quantité importante, et donc c'était vraiment quelque chose qui renforçait énormément l'organisme.
Il y avait des microscopes à cette époque ? Comme le regard qui tue. C'est quoi cette question, quoi? C'était ça le regard.
mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle, elle parle d'acidité, elle parle des inflammations. Donc elle a cette notion de terrain. Voilà, en disant, si on corrige avec l'alimentation, si on corrige le terrain, eh bien, certaines maladies disparaissent ou en tout cas s'améliorent. Donc ça, c'était déjà de la naturopathie, on est d'accord. C'est en ça que consiste la naturopathie. Et donc, affection toute particulière pour cette céréale qu'est l'épeautre. Et puis, par exemple, quand elle parle du fenouil qui est très très présent dans toutes ses préparations, c'est le fenouil, ça rend joyeux. Voilà, on connaît le fenouil pour ses propriétés digestives. Effectivement, le fait de favoriser une bonne digestion, d'être bien dans son ventre quelque part, eh bien c'est vrai, on est bien dans sa tête et on est d'humeur joyeuse. Donc effectivement, le fenouil rend joyeux. Elle parle de la châtaigne en disant que la châtaigne protège le foie et les nerfs.
Ah, tu vois ?
Ah, tu vois, j'avais dit le contraire. Et puis que la noix aussi rend joyeux. Et elle parle par exemple des amandes en disant que celui qui a le cerveau vide mange des amandes. Donc c'est vrai que quand même elle nous parlait pas des oméga 3 là. Mais pourtant, déjà, son observation aiguë fait que quand même, elle pointait déjà, en fait, c'était déjà de la nutrition.
Parce qu'il n'y avait pas des labos à l'époque, quand je parlais du microscope, il n'y avait pas de labos non plus. Donc
sûr,
ça reposait vraiment sur une observation très fine.
Très fine. Et on est au Moyen-Âge et quand même, déjà, ils identifient que par l'alimentation, on peut et corriger le terrain et améliorer des fonctions.
Bravo Hildegarde.
Ouais, bravo Hildegarde, on peut le dire. Elle fait des recommandations de cuisson. Alors, elle recommande très peu de crudités, ou en tout cas des choses qu'elle observe améliorer la santé quand c'est cuit, mais pas cru. Voilà. Donc, bon, après, il faut recontextualiser aussi. Hein. C'était une époque particulière. C'était pas non plus les mêmes pathologies qui étaient là, mais quand même, enfin, gros travail qui est important. Les recettes qui sont encore utilisées aujourd'hui. Vraiment des recettes pour l'élaboration d'élixirs, pour soigner tout un tas de pathologies, que ce soit de la migraine, aux troubles digestifs, aux maladies de peau, des tisanes, des associations voilà, pour des tisanes, des vins aussi, hein, on faisait des vins qui soignaient aussi. Hein. Des associations de plantes médicinales avec des épices, pour aussi l'élaboration, je le disais, d'élixirs, tout ça, mais aussi de baumes de soins, tout un tas de... tout un tas de recettes qui sont à disposition pour tout un tas de mots. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est cette subtilité qu'il peut y avoir, et ça très certainement parce que c'est une femme.
Il y a des chances, il y a de grandes chances. Et c'est possible ce que tu dis.
mais aussi, elle va dire par exemple, eh bien, pour soigner la colère, on peut respirer de la sauge et de la rose. Il y a quand même aussi ce soin de l'émotionnel grâce aux odeurs. Donc là, elle n'explique pas forcément quels sont les composés chimiques qui vont avoir une action sur les récepteurs. On s'en fiche. En tout cas, elle va dire que la sauge a cette propriété de consoler, la rose d'ouvrir le cœur, le lys aussi, voilà, dans toutes ces odeurs.
Dans les fleurs du Dr Bach, quoi, quasi.
Non, parce que là, on est vraiment dans l'olfactérapie, l'olfactothérapie. C'est vraiment
mais sur l'émotion, sur l'essence, c'est un peu la vocation des fleurs de Bach, non ?
Oui, mais le Dr Bach, on est encore dans de l'information qui ne passe pas du tout par la chimie. Là, ça passe par de la chimie, le fait de respirer. Il y a quand même des molécules chimiques qui arrivent et qui vont avoir une action. Mais bon, l'information reste très certainement la même. De toute façon, la rose, que ce soit quand on la respire, quand on la prend en infusion ou quand on peut la prendre sous forme d'élixir floral aussi, il y a toujours ce rapport au cœur. La rose, c'est la fleur qu'on va prendre pour être enveloppante, rassurante et aussi guérir le cœur. Quand il y a des deuils, par exemple, deuils pas forcément à la perte d'un être cher, mais deuils en tout genre, en tout cas, elle va réconforter la rose. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie, les travaux d'Hildegarde aussi font partie de cette observation de l'action de la rose, l'action subtile de la rose, mais elle parle également d'autres fleurs. Donc voilà, alors évidemment, plus pragmatique, des plantes qu'on respire pour dégager les voies respiratoires et tout, mais une observation sur, si vous plantez telle plante à cet endroit-là et que vous respirez l'odeur, eh bien, vous aurez, par exemple, ça va calmer la colère ou vous sentirez moins triste, voilà. Donc très 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 chouette. Donc c'est encore une fois son sens de l'observation, les détails de l'application des plantes qui sont consignés dans ses ouvrages.
Et puis elle a dû passer par ses états pour trouver des remèdes.
Bien sûr, évidemment. Je crois que de toute façon, comme le docteur Bach que tu citais, ils sont tous déjà des observateurs des autres, mais déjà des expérimentateurs, si je puis dire. Mmh. Déjà.
Tu peux le dire.
Je peux le dire. Donc voilà, un beau travail. Et c'est une personne qui je trouve, qui
une
mérite...
Une belle personne. C'est une belle
personne. Non, mais en tout cas, c'est quelqu'un à qui on peut. Je pense que c'est normal. Si on s'intéresse un tant soit peu à la médecine naturelle, puis il y a des gens qui suivent son enseignement. Il y a des formations pour ça. Eh bien, je crois que c'est un nom à connaître. Saint-Hildegarde, ça fait partie de nos piliers.
De Bingen.
Voilà, de Bingen. Ça fait partie des piliers. Donc à découvrir. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, ils peuvent lire ses ouvrages, bien sûr, ou après découvrir les produits qui sont élaborés suivant les recettes qu'elle a mises au point.
Est-ce que potentiellement tu pourrais terminer cette chronique avec une petite phrase en allemand? Je sais que tu maîtrises bien la langue, un truc un peu sympathique, un peu joyeux qui nous fait.
Oh là là, tu me fais bien rire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qui vous fait bien rire? Qu'est-ce que je pourrais dire?
Je sais pas. Et qui rime en plus, en allemand.
Putain, attends, oh.
Et avec l'année 2018.
Non. Tu aurais dû me le dire avant, je me préparais.
Oh, pardon, je m'excuse.
Si je peux dire une phrase. Ça n'a rien à voir avec la chronique.
Si
ça me fait beaucoup rire. Enfin, c'est pas très marrant, mais c'est un peu difficile en fait quand on est français pour arriver à intégrer ça. Tu sais, nous on a ce truc si ton tonton, ton tonton, ton tonton sera tondu. Tu connais,
oui,
voilà,
oui,
ça.
Ton tête à guéri, ben... tatou, piano,
et ben, y a
panier,
un truc comme
panier.
Ça. Ouais.
Ah bah oui, bah vas-y, un virlang, quoi.
Mais qui veut dire quelque chose. Wenn fliegen unter fliegen fliegen, fliegen 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 nach.
Voilà. Et ça veut dire, alors...
En fait, quand une mouche vole derrière une mouche, des mouches volent derrière des mouches.
Oh punaise.
Parce qu'en fait, c'est le mot mouche, fliegen au pluriel, c'est le même que voler. Voilà, donc c'est pour ça.
Bac, super.
Je sais pas, tu prends des pour vous.
Non, mais c'est parfait, c'est parfait.
Non, c'est pas parfait, c'est pourri. Comment tu peux le dire?
Une recommandation pour terminer cette intervention du jour.
Eh ben, c'est une recommandation, c'est pour les gens qui seraient intéressés pour apprendre l'usage des huiles essentielles dans un cadre familial. Venez donc m'en parler, puisque je veux organiser un atelier sur le sujet, comme j'ai déjà fait. Et donc, ça serait bien de venir se manifester.
À la boutique
Obio. À la boutique, tout à fait.
Située avenue Toulouse, espace géré par Ingrid et Valérie. Merci Delphine, la semaine prochaine, tu sais à peu près de... les sinus, non? Parce que là, c'est la période des sinus quand même. Pas du tout.
D'accord, c'est une demande particulière.
Moi, c'est chronique, c'est marrant, hein, enfin.
Ah
bon, Ah mince, j'aime pas comme tu me regardes. Allez, la semaine prochaine, tu sais de quoi tu nous parles?
Eh ben, tiens, on parlera des sinus.
Ah, bah, parfait. À la semaine prochaine, Delphine. Belle journée. Et comment dire au revoir en allemand à...
Auf Wiedersehen.
Ah, bah oui, auf Wiedersehen.
Tschüss. Bis bald.
Votre rendez-vous bien-être vous a été présenté par le magasin Obio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.